Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio, bienvenue à 17h03, de l'actu et des débats comme chaque soir avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, voilà, qui a mis ses lunettes. Hein. C'est pas comme Castex, lui, c'est bien que ses lunettes sont sur son visage. Voilà.
Pas toujours.
Ah bon, bah, ah ça bon arrive. Hein. Laura Tenoudji qui est avec nous. Bonsoir ma chère Laura, journaliste à France Télévisions.
Bonsoir.
Bonsoir. Philippe David, que vous retrouvez demain dans Les Vraies Voix et ce week-end à la tête du Grand Matin à partir de 18h. Tiens, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse de Jean Castex sur Sud Radio. Alors, que va-t-il se passer pour les Français le 15 décembre alors que l'objectif des 5000 cas par jour ne sera jamais atteint? Ça, c'est sûr. Le gouvernement va-t-il déconfiner la France mardi prochain? On sera le 15 décembre. Il sera apparemment question d'un couvre-feu dès 20h, voire même 19h. Pour le 31 décembre, peut-être pas pour le 24 décembre. Va-t-on pouvoir se déplacer d'une région à l'autre? Bref, les théâtres et les cinémas vont-ils rouvrir à partir du 15 décembre? Jean Castex répondra à toutes ces questions. Conférence de presse à partir de 18h du Premier ministre. À suivre sur Sud Radio, Les Vraies Voix pour débriefer. Et vous, évidemment, vous attend 0826-300-300. Un mot, hier, nous avons débattu du racisme, hein, Philippe David, dans le foot.
Oui.
Silver-Henri Cissé était avec nous, le journaliste, et nous nous excusons aujourd'hui auprès de lui, puisque nous avons fait une erreur en retranscrivant ses propos sur notre compte Twitter. Non, Silver-Henri Cissé n'a pas dit, comme malheureusement on l'a écrit sur le compte Twitter de Sud Radio, il n'y a pas une journée de championnat sans qu'il n'y ait de cris de singe, de banane qui soit lancé. Aujourd'hui, ce ras-le-bol doit être exprimé. La Fédération française de foot ne fout rien. Non, Silver-Henri Cissé n'a pas dit ça. Voici ce qu'il a déclaré sur notre antenne hier soir.
Nous savons que dans les pays de l'Europe de l'Est, aujourd'hui, c'est profondément enraciné. Il n'y a pas une journée de championnat
sûrement
sans qu'il y ait des cris de singe, sans qu'il y ait des bananes qui soient lancées, et qu'aujourd'hui, ce ras-le-bol, il faut qu'il soit exprimé. Et le club ne fait rien. La fédération ne fait rien. Donc, ce sont les joueurs qui se prennent en main.
Ouais.
Et ce racisme-là, il est ancré, permanent et régulier.
Voilà, non mon cher Silver-Henri Cissé, Sud Radio ne déforme pas les propos, c'était juste une erreur. Voilà, l'erreur est humaine
et nous vous présentons ce soir des fédérations des pays de l'Est.
Exactement, voilà. Le débat est clos. Les vraies voix vont bien ce soir. Laura Tenoudji, comment allez-vous ma chère Laura, honneur aux femmes?
Très très bien, je suis ravie de vous retrouver.
Bah,
vous m'avez manqué.
Bah, nous aussi,
et en plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu la voix de Philippe David.
Ah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, oui.
Merci, on n'est jamais
Laura
ensemble. Enfin, je vous entends,
que vous
mais
aviez parlé de la mienne plutôt.
Non, mais elle a l'habitude, elle a l'habitude
non, mais
de
elle
la
a
vôtre.
Bon mais je.
Ah, attendez, une info importante à vous communiquer. Selon l'IFOP, la vie sexuelle des Français s'est améliorée par rapport au premier confinement. Et oui, davantage de Français affirment avoir eu un rapport sexuel à l'automne, et ce en partie grâce au télétravail et à l'absence des enfants à la maison qui étaient à l'école pour ce deuxième confinement. Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander si vous vous retrouvez dans ce sondage. Pas de voyeurisme déplacé ici. Mais quand même, Philippe David, tout s'est bien passé lors de ce deuxième confinement.
L'un dans l'autre, c'est un sondage très intéressant.
Voilà,
mais pourquoi vous nous parlez de votre vie, mon cher Philippe?
Ben oui, vous avez vu, bah oui. Moi, je n'ai pas encore d'enfant et je n'ai pas télétravaillé. Donc vous pouvez...
comme disait Thierry Roland, ça ne nous regarde
voilà,
pas.
Et on n'a pas demandé à la ravissante Laura
non,
ce qu'elle en pense.
Non, mais c'est vrai que Laura, il y a eu...
Mais je ne télétravaille pas non plus,
voilà, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des bébé confinement,
bah,
hein, ma chère Laura.
Hein. Rappelez-vous les jours de grève à New York, parfois.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Non, le pire, c'était dans une coupure de courant à New York où il y a eu un pic de natalité 9 mois après. Mais là, les bébés du premier confinement, sachant que ça a eu lieu juste après le 15 mars, vont pas tarder à arriver.
Oui, hein. Ouais, c'est ça. On va avoir beaucoup, beaucoup de bébés. Enfin, je l'espère. Hein.
Les marchands de biberons, petits pots, couches, vont être très contents.
Avec vous, les soirées sont chargées d'électricité.
Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, mon cher Philippe?
Allez, mais vous êtes un objet.
Sans plus tarder.
Un objet, mais je vous en prie.
Voici le tour de table de l'actu.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon?
Vous causez quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table
de l'actualité.
L'avocate des proches de Samuel Paty a dénoncé hier les erreurs graves de l'État. L'avocate des proches de Samuel Paty estime que les institutions n'ont pas su protéger l'enseignant, et ce malgré la gravité de la situation qu'il concernait et qu'il vivait. Alors je vous explique, quelques jours avant son assassinat, je vous le rappelle, hein, Samuel Paty avait été insulté, Samuel Paty avait été menacé, il y avait des vidéos qui circulaient, plusieurs fois partagées sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo de menace qui avait notamment été partagée par la mosquée de Pantin. Et pour l'avocat des proches de la famille Paty, eh bien, tout laisser présager à un passage à l'acte. De plus, il y a quelques jours, il y a eu un rapport de l'Éducation nationale qui exclut la responsabilité des institutions. Selon ce rapport, le professeur a commis une maladresse en proposant aux élèves musulmans de quitter la salle s'ils craignaient d'être choqués par les caricatures de Mahomet. Voilà donc ce que dénonce l'avocate. D'une part, le rapport de l'Éducation nationale, et d'autre part, eh bien, elle explique qu'on aurait pu éviter sa mort, Philippe David. Alors c'est vrai qu'en général, on prend au sérieux les menaces, notamment il y a des renforts policiers, et là, n'a pas eu lieu.
Oui, enfin, quand on voit les harcèlements numériques qu'il y a contre certaines personnes, je pense à Zineb El-Razoui, à Zohra Bitant, enfin à plein de gens, inutile de dire que les précautions, il faudrait les prendre, mais a-t-on déjà les effectifs pour le faire ? Ça, c'est comme déjà la première question. Ouais. Vous allez porter plainte, entre guillemets, sur Pharos. Est-ce que ça va réagir et à la vitesse voulue ? Premièrement, vous allez porter plainte au commissariat de police. Est-ce que ça va réagir dans les bons délais ? Ça, c'est quand même la seconde vraie question.
Ouais.
Par contre, la question qui se pose, c'est que quand même, dans ce collège, on peut dire que Samuel Paty a été aussi abandonné par ses collègues, de ses collègues et par sa hiérarchie.
Et directeur de l'établissement,
et ça,
tout à fait.
Ça, c'est pire que tout. Mmh. C'est ça, le pire.
Ouais. Laura Tenoudji ?
Non, je suis assez d'accord avec Philippe David. Et en plus, il suffit
vous êtes bien inspiré,
rien que le sujet... Rien que le sujet des femmes battues, où on voit des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Pourtant, il y a eu des plaintes. Pourtant, on a averti les autorités et il n'y a rien eu du tout. Et il y a quand même des crimes qui sont commis pour revenir à des choses beaucoup plus banales. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe David.
On
a-t-on les moyens A-t-on vraiment les moyens de pouvoir protéger tous ceux qui sont menacés? Parce que je pense qu'il y a d'autres professeurs qui le sont également, et dans d'autres professions, il y a également des menaces, à commencer effectivement par les réseaux sociaux, où je pense que s'il y a une chose à faire, c'est du nettoyage et d'arrêter d'autoriser ce qui peut être publié. Déjà, commençons par ça, parce que même si les personnes qui ont fait des menaces ne pensaient pas aller jusque-là, il y en a d'autres qui se les approprient. Donc le sujet, il est vraiment sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a quand même des décisions à prendre. Mmh.
Alors Philippe Bilger, c'est vrai qu'en dehors des menaces proférées à l'encontre de Samuel Paty, il y avait aussi les menaces d'Al-Qaïda depuis quelques jours, pas sur Samuel Paty, mais sur la France. Donc on aurait pu juxtaposer les deux.
Oui, mais de toute façon, on vit depuis quelques années dans un univers de menaces multiformes. Et ce qu'a dit Philippe est très vrai, mais Laura également, je voulais juste dire qu'on essaye de faire des efforts dans le domaine des violences à l'égard des femmes. On a mis en point des dispositifs qui parfois permettent, heureusement, d'éviter le pire. Mais les réseaux sociaux, celui qui prétend lutter contre leur vulgarité, leur grossièreté, leur haine, je leur souhaite bon courage.
Et ce rapport donc de l'Éducation nationale qui lâche, on peut le dire comme ça, Samuel Paty, je vous rappelle, les conclusions de ce rapport, le professeur a commis une maladresse en proposant aux élèves musulmans de quitter la salle s'ils craignaient d'être choqués par les caricatures de Mahomet. Philippe.
Mais ça, c'est... Enfin, j'ai l'impression, quand je vois les rapports de l'Éducation nationale, de revoir, vous savez, enfin, j'étais pas né, personne dans ce studio, Ponce Pilate.
Qui s'en lavait les mains.
Qui s'en lavait les mains, et grosso modo, pour reprendre la version Ponce Pilate moderne, c'était Coluche qui disait circuler, il n'y a rien à voir.
Ouais.
J'ai l'impression que l'Éducation nationale, c'est un mix de Ponce Pilate et de Coluche. Mais ce que je veux dire, à une différence que contrairement à Coluche, ils sont vraiment pas drôles.
Ouais, Laura Tenoudji, c'est vrai que alors l'avocate l'a dit et on le sait tous. Effectivement, c'était pas une maladresse. Il voulait montrer les caricatures de Mahomet et il s'est préoccupé de ces jeunes élèves musulmans qui auraient pu être choqués en leur disant si vraiment ça vous choque, quittez la salle parce que je vais montrer les caricatures.
Mais il avait été même, à mon avis, trop déontologique parce que s'il n'avait pas attiré l'attention là-dessus, on avait le droit de parler de ça.
Ouais, c'est vrai. Laura.
Non, je trouve que la maladresse, effectivement, elle ne se situe pas là, parce qu'elle se situe... comment on peut aujourd'hui dire il a commis une maladresse ? Enfin, quel professeur en France ne commet pas certaines maladresses ? Et je suis d'accord, ça n'en est pas une, parce qu'il a eu la précaution de dire peut-être que certains vont être choqués en fonction de leurs croyances. Donc, s'ils veulent sortir de la salle pour éviter sûrement des réflexions, des cris de certains élèves. Donc, aller se réfugier là-dedans, je trouve que c'est assez honteux compte tenu du crime qui a été commis. On n'est plus à savoir, il y a eu un crime, mais d'aller essayer de défendre en disant l'Éducation nationale, en disant « mais non, en fait, il n'aurait pas dû dire ça », Voilà, je trouve que c'est assez déplacé.
Et permettez-moi d'ajouter un petit truc. L'éducation nationale se plaint de ne plus avoir de candidats pour pourvoir ses postes d'enseignants. Mmh. Mais je peux vous dire que je serais jeune, je voudrais rentrer dans l'éducation nationale en voyant comment la hiérarchie soutient ses enseignants, c'est-à-dire qu'elle les soutient grosso modo comme la corde soutient le pendu, j'aurais certainement pas envie de devenir enseignant aujourd'hui en voyant ça.
Allez, on va poursuivre le tour de table de l'actualité et puis dans quelques minutes, ce sont les débats des vraies voix, notre premier débat. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour pour avoir déclaré que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Nouvelle amende contre Zemmour, est-ce que vous trouvez ça justifié? 0826 300 300, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, voilà, et le 0826 300 300, hein. Appelez-nous pour débattre avec nous, avec les vraies voix, Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Philippe David. Mais pour l'heure, il est temps de jouer sur Sud Radio.
Ça c'est bien.
Oui. À 2 semaines de Noël, Sud Radio.
Je trouve que plus ça va, plus vous ressemblez au Père Noël. La barbe en moins.
Ah bon ?
Vu tous les cadeaux que vous faites gagner tous les jours.
Les poids en moins aussi.
Comment ?
J'ai moins de poids que le Père Noël aussi. Non ?
Ah non, vous
êtes très svelte. Je n'ai pas sa bédaine, oui, voilà.
Ah oui, c'est gentil. Vous avez des tablettes de chocolat, lui,
non,
il a...
Non, je n'irai pas jusque-là. Allez, Sud Radio et Yamaha vous offrent vos écouteurs sans fil, des écouteurs qui vous permettront également de téléphoner ou encore de diriger votre smartphone. 0826 300 300, allez, le 23e appel repart avec ces superbes écouteurs sans fil Yamaha. Bonne chance, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenoudji qui est avec nous, Philippe Bilger, Philippe David, restez là dans un instant, c'est le premier débat des vraies voix. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour pour avoir déclaré que Pétain avait sauvé des juifs français. Nouvelle amende contre le polémiste, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça justifié? Pour l'instant, vous dites non sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300, j'attends vos réactions. On va en débattre avec vous et nos vraies voix dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, bien, on poursuit le tour de table de l'actualité. Écoutez ça.
Bon, l'hymne italien.
Voilà, j'allais vous demander est-ce que vous reconnaissez cette petite musique. Forcément, c'est l'hymne italien. Un grand joueur italien nous a quitté, mon cher
l'Italie
Philippe.
L'Italie est en deuil. Alors, les semaines sont tragiques pour les stars du foot des années 80, puisqu'il y a une quinzaine
Maradona,
de jours.
Maradona, il y a 2 semaines.
La
ouais.
star de la Coupe du Monde 86, Maradona, mourait. Et là, c'est la star de la Coupe du Monde d'avant, 82, Paolo Rossi, qui meurt. Alors, Paolo Rossi, le fait qu'il soit devenu Ballon d'Or et qu'il gagne la Coupe du Monde en 82 est un miracle.
Parce qu'en il ne devait pas la jouer, c'est ça?
Il ne devait pas la jouer parce qu'en 80, il est condamné dans l'affaire du Toto Nero, c'est-à-dire les paris truqués sur les matchs de foot. Aye. C'est-à-dire que les paris étaient truqués, certains joueurs faisaient exprès de rater des buts et des gardiens faisaient exprès de laisser rentrer des ballons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au lieu de beaucoup plonger, il plongeait un peu moins.
Ah ouais, ouais.
Évidemment, ça finissait au fond. Et il a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on lui a réduit sa suspension. Donc il a repris le football de mémoire le 2 mai 1982. Enzo Bearzot, qui est le sélectionneur italien, le prend. Alors, et là, vous allez voir, c'est très amusant, c'est la presse italienne, qui n'est jamais extrême sur le football, hein, soit dit en passant. Au premier tour, l'Italie passe miraculeusement, avec 3 matchs nuls de mémoire. À la différence de but, et grâce au fait qu'un but a été refusé au Cameroun alors qu'il était valable, il n'y avait pas la vidéo à l'époque, il n'y avait pas hors-jeu. Et il est, pour la presse italienne, le plus mauvais avant-centre qui n'ait jamais porté le maillot de la Squadra Azzurra. Le premier match contre l'Argentine de phase 2, c'était des phases de poule à l'époque. Il y avait 2 phases de poule, demi-finale, finale. C'était pas 8e, quart, demi-finale. Il fait un match pas mal, mais contre le Brésil, qui est le super favori de la Coupe du Monde, ils battent le Brésil 3-2, il met 3 buts.
Donc c'est lui, il a fait un triplé, quoi.
Il passe en demi-finale contre la Pologne de Boniek, mais Boniek joue pas, il est suspendu. Il gagne 2-0, 2 buts de Paolo Rossi. Il fait un doublé, et c'est le 11 juillet, la finale contre de la RFA de l'horrible Schumacher, qui a fracassé Battiston 3 jours plus tôt, et qui ouvre le score.
Rossi.
Alors Dieu sait si je l'ai béni ce jour-là, j'avais 15 ans à l'époque, voir Schumacher aux fraises, j'étais vraiment trop heureux, et là, c'était Paolo Rossi qui met le premier, de mémoire, le deuxième Tardelli, le troisième Altobelli.
Bon voilà, donc en gros, il a mis 6 buts pendant cette Coupe
là,
du Monde, en 82.
Vous savez ce que dit la presse italienne à ce moment-là, quand il fait 3 buts, 2 buts, 1 but. Ben, un mois plus tôt, il était le plus mauvais avant-centre de l'histoire de la Squadra Azzurra. Un mois après, il était le plus grand avant-centre de l'histoire de la Squadra Azzurra.
Ça me rappelle un certain Aimé Jacquet qui était le plus mauvais entraîneur avant
le premier,
la Coupe du Monde.
J'ai l'équipe de France jouait mal, c'était horrible.
Ah mais c'est vrai que l'équipe de France jouait pas bien.
Et vous avez raison de rappeler ce précédent, Philippe.
Oui, alors vous parliez du match Italie-Brésil. Hein, voilà, il envoie son
match
équipe en demi-finale. Alors souvenez-vous, on a les commentaires, écoutez.
Conte swung over a corner. The Brazilian defense couldn't clear again. And from Marco Tardelli's shot, Rossi spun 6 yards out to score his third goal of the game.
Et voilà. Donc, c'est pas la version italienne. Vous savez pourquoi? Puisque bah, la FIFA en fait
a bloqué
les images, donc on n'y a pas eu accès. Mais on a retrouvé effectivement. Ah,
par contre, dans ce match,
ça paraissait étrangement calme.
Oui, c'était très calme.
Il met deux beaux buts, mais alors il y en a un malheureusement, c'est les Brésiliens qui lui donnent. Et alors, je vais vous faire une dernière confidence. Ce Brésil-là qui n'a pas passé le second tour était une des plus belles équipes de l'histoire. Alors, je termine là avec un milieu de terrain Zico, Socrates, Falcao, Toninho, Cerezo. Jusqu'à la fin de mes jours, je regretterais qu'il n'ait pas joué la France de Platini.
Ma chère Laura Tenucci, au repas de Noël, par exemple, vous allez pouvoir ressortir la biographie de Paolo Rossi grâce à Philippe David.
Sans doute, hein.
Exactement, exactement. C'est vrai que j'étais toute jeune, donc si vous voulez, j'ai pas le recul de Philippe Bilger et de Philippe Rossi, tout comme vous d'ailleurs. Hein. Donc je me souviens pas de lui en train de jouer au foot. Mais non, mais que ce soit pour lui ou Maradona, c'est l'occasion de se replonger dans cette période-là, et c'est assez agréable. Voilà, je trouve que ça fait du bien. C'est pas tant de la nostalgie, c'est une époque où il y avait un peu plus d'insouciance, et compte tenu de la période dans laquelle on est en train d'évoluer en ce moment, mais ça fait du bien de se replonger dans ces beaux moments sportifs.
Ouais. On ne peut plus vivre actuellement. Moi, j'ai le recul, Laura, mais je n'ai pas la mémoire de notre ami Philippe David.
Et alors, je crois que son dernier match sous le maillot de la Juventus.
C'est reparti,
c'est ma faute.
Son dernier match sous le maillot de la Juventus, c'est un match dramatique, c'est le match du Hezel.
Ah oui,
la finale contre Liverpool. Ouais.
Alors, il était jeune, Paolo Rossi, il avait 64 ans.
Hein. Oui, il avait 64 ans. Alors, j'ai lu la Gazzetta dello Sport, maladie incurable, on ne sait pas malheureusement de quoi il est décédé.
C'est ce qu'on dit en général.
Voilà, donc Paolo Rossi, il y a deux semaines, c'était Diego Maradona.
Je voudrais juste dire une chose, c'est que c'est un des plus grands avançants. Parce qu'il faisait 1m78 seulement, donc il n'avait pas un physique exceptionnel pour mettre du de la tête. Mais il avait une qualité qui l'inspirait de Gerd Müller, même si Gerd Müller était beaucoup plus grand que lui. Il avait un sens du placement qui était énorme. Et un bon placement pour un avant-centre, c'est vraiment 80% du succès.
Ouais.
Et le joueur, pour les plus jeunes qui nous écoutent, italien, qui lui ressemble le plus pour moi, Philippe Bilger sera peut-être d'accord, vous aussi, Philippe Rossi, Laura, je ne sais pas, c'était Filippo Inzaghi. Renard des surfaces dans le même style.
Ouais. Laura, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne connaissez pas ce nom.
Moi, je suis moins pro. Je passe mon tour.
Bon, alors, tiens, puisqu'on parlait de Maradona, joueur mythique qui nous a quittés il y a deux semaines, des billets de banque à l'effigie de Diego Maradona, peut-être en Argentine, voilà. C'est une question de semaine, évidemment. Bah, c'était normal.
Je peux vous dire, sachant que l'Argentine a sans changer, je ne sais pas combien de fois de monnaie sur les 50 dernières années, s'ils rechangent de monnaie, ils vont être collecteurs.
On n'est plus à un délire près.
Non, vous avez raison.
Moi, j'aimerais bien, moi, des billets avec Philippe Bilger dessus.
Non, mais moi, je serais pas plausible, mais Maradona... Mais franchement, enfin, je veux pas développer ma détestation de l'époque.
Je rêverais de voir votre tête quand chaque fois que je sors un billet.
Non, soyons sérieux.
Alors nous, sur Sud Radio, on ne vous offre pas des billets de banque à l'effigie de Maradona, on vous offre mieux que ça. On vous offre des écouteurs sans fil, les écouteurs Yamaha pour téléphoner, pour diriger votre smartphone et évidemment pour écouter Sud Radio et pour écouter de la musique aussi. Caroline est avec nous, Caroline de Bordeaux. Bonsoir Caroline.
Bonsoir à toute l'équipe.
Comment ça va Caroline?
Ça va très bien, là je suis dans les bouchons bordelais.
Ah, eh oui.
Je me suis mise en warning sur le côté, en toute sécurité.
Vous êtes prudente Caroline, vous avez bien fait, vous étiez la 22e au standard au 0826 300 300 et ma chère Caroline, à deux semaines de Noël, eh bien on vous offre vos écouteurs sans fil Yamaha pour écouter de la musique, pour nous écouter évidemment, et puis pour diriger votre smartphone aussi, voilà ma chère Caroline. Très très high-tech, les vraies voix ce soir.
Merci à tous, j'écoute beaucoup, j'écoute très souvent Sud Radio, il y a pas mal d'émissions intéressantes sur votre radio que je suis. Je suis souvent en chemin dans le cadre de mon travail, donc voilà, je suis souvent avec vous.
Eh bien ma chère Caroline, je vous encourage à continuer d'écouter Sud Radio, voilà.
C'est une très bonne résolution pour 2021 aussi.
Oui, c'est une très bonne résolution. Par avance, bonne fête de Noël Caroline, bonne fête de fin d'année. Et restez sur Sud Radio pendant les trois semaines qui arrivent. Et en 2021 aussi, on sera là dans un instant. Le premier débat des vraies voix. Éric Zemmour devant la justice pour avoir dit que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. 10 000 euros d'amende ont été requis contre le polémiste. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous dites non à 80% sur le compte Twitter de Sud Radio. On va en débattre. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.
Jusqu'à la mort. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les Vraies Voix vous accompagnent jusqu'à 19h. Ce soir, c'est Laura Tenoudji qui est avec nous, journaliste à France Télévisions. Philippe David, que vous retrouvez demain dans Les Vraies Voix. Tiens, et ce week-end, dans le Grand Matin, le magistrat honoraire Philippe Bilger. Restez là à partir de 18h. Conférence de presse de Jean Castex à suivre en direct sur Sud Radio. Les annonces du Premier ministre, donc dans quelques minutes, va-t-on être déconfiné le 15 décembre? C'est la grande question et bien réponse à partir de 18h. Dans l'immédiat, c'est le premier débat des Vraies Voix. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour pour avoir déclaré que Pétain avait sauvé des Juifs français. Il comparaissait pour contestation de crimes contre l'humanité. Amende contre Zemmour, est-ce que vous trouvez ça justifié? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, la réponse est non, et c'est un grand non. Hein. Vous répondez non à plus de 80%. On va vous écouter dans quelques instants au 0826 300 300. On sera avec Maria de Bordeaux. Écoutez Éric Zemmour, c'était il y a un peu plus d'un an, en 2019, lors d'un débat face à Bernard-Henri Lévy sur le plateau de CNews. Pardon, écoutez.
Dans une autre émission, vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs
français.
Ou avait sauvé les Juifs français.
Français.
C'est une monstruosité. Oui. C'est du révisionnisme.
C'est encore une fois le réel.
Non.
Voilà, donc, Éric Zemmour qui assume ses propos face à Bernard-Henri Lévy. Et voilà, lors de l'audition, lors de l'audience il y a quelques jours d'Éric Zemmour, eh bien, il a réitéré ses propos face à la magistrate. Je tiens à répéter ce que j'ai dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, 40% des Juifs étrangers qui ont été exterminés et 90% des Juifs français qui ont survécu. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour, qui poursuit en disant « J'admets que l'on puisse contester ce que je dis, mais je ne vois pas en quoi ce que je dis » conteste que des Juifs aient été exterminés par des Allemands. Voilà donc ce que dit Éric Zemmour. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a trois choses.
Hein. Beaucoup se contredisent, hein, des historiens, des chercheurs sur ces chiffres. Hein.
D'abord, évidemment, je considère, et là je m'engage, qu'on veut la peau médiatique d'Éric Zemmour, hein, que c'est clair, bientôt on poursuivra même ses silences à Éric Zemmour. Alors, à partir de ce dessin, est-ce qu'il est normal que dans le cadre d'une contradiction purement historique sur un phénomène dramatique de notre histoire, avec le rôle sans doute équivoque du maréchal Pétain, on n'ait pas le droit d'avoir une analyse comme celle qu'il a eue? Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, que, à la contradiction intellectuelle, médiatique et historique, on ajoute une judiciarisation comme si la justice était parfaitement capable de trancher cette controverse? Il a peut-être tort, Éric Zemmour. Il y a des gens qui sont venus dire qu'il a tort. Lui, il dit « Je confirme ce que j'ai indiqué. C'est une controverse de nature historique et je ne vois pas en quoi il est légitime de demander à la justice de s'en occuper. »
Alors, rectification, je vois beaucoup d'articles où il est écrit « Les propos de Zemmour, Pétain a sauvé des Juifs. » Non, alors ça, voilà, faut être honnête, il a dit « Pétain a sauvé des Juifs,
des Juifs français. »
Ce qui a choqué, je pense, Philippe David, c'est le mot « sauvé ». C'est que qu'on donne cette qualification à Pétain d'avoir sauvé des Juifs.
Mais Philippe, pardon d'ajouter, j'ai connu il y a des années, dans ma vie de magistrat qui était à la section de la presse, une affaire passionnante où des gens qui soutenaient le maréchal Pétain avaient fait un placard à sa gloire en retenant à son égard toutes les choses qu'il avait faites de positives. Eh bien, c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et on a considéré que même en créditant Pétain de choses qu'il avait faites et qui étaient positives et admises par tout le monde, il y avait une apologie de ce qu'il avait été.
Ouais. Philippe David.
Non, alors déjà, il faut quand même dire une chose, Pétain n'a sauvé personne pour une bonne et simple raison, c'est que quand le statut des Juifs a été présenté, c'était au début de l'automne 40, on a fait ça dans, c'était il y a dans le Grand Matin Week-end avec Serge Klarsfeld, début octobre, Pétain a annoté de sa main pour que le statut des Juifs soit encore plus restrictif qu'il n'était. Parce qu'au départ, le statut originel disait que les descendants de Juifs français ou naturalisés avant 1860 n'auraient pas été considérés comme Juifs. Et Pétain, par exemple, est revenu dessus pour que le statut soit encore plus dur envers les Juifs. Pour moi, c'est un des pires drames de l'histoire de France du XXe siècle. C'est le statut des Juifs, l'étoile jaune, etc. Parce que ce qui s'est passé est une abomination. Et pour rappeler, je rappellerai quand même ce qui s'était passé, notamment pendant la Première Guerre mondiale, la fameuse image d'Épinal du rabbin Abraham Bloch, du grand rabbin Abraham Bloch, qui donne l'extrême onction à un soldat catholique français qui est en train de mourir, parce qu'il n'y a pas de prêtre à disposition, et qui meurt lui aussi tué par un éclat d'obus. Parce que les Juifs étaient des Français comme les catholiques, les protestants, etc. Et je pense que dire que Pétain a sauvé des Juifs, désolé de lui.
Des Juifs français. Non, et rappelons qu'il y a beaucoup de
Juifs. Il n'a sauvé personne.
Mais si, mais si, parce que là, vous ressortez ce qui a été dit, vous oubliez une chose, c'est que lorsqu'on dit qu'il a sauvé des Juifs français... Pétain, eh bien, il est approuvé, par exemple, par des gens comme Poliakov, par Raoul Hilbert, qui est considéré comme le grand spécialiste, par Robert Aron.
Alors, une chose...
Des Juifs français.
Je dis un
dernier mot. À une différence fondamentale, c'est que il y a un truc que dit Zemmour qui est vrai, c'est que par rapport aux pays occupés par l'Allemagne nazie, la France a eu un des taux d'extermination des Juifs les plus bas, rien à voir avec la Pologne, ou même en Europe de l'Ouest, les Pays-Bas. Ouais. D'accord. Mais qui souvent les a sauvés, des Justes.
La population.
On a eu des Justes, et je suis plutôt fier d'avoir un grand-père qui avait un ami juif qui le prévenait quand il y avait des rafles, parce qu'il était officier de police, parce qu'il était anti-allemand de manière viscérale, et que malheureusement, quand Pétain aggrave le statut des Juifs, un tel geste dit qu'on ne peut pas dire qu'il a sauvé des Juifs, français ou pas français.
Alors, j'aimerais entendre Laura Tenoudji sur le sujet. Laura.
Juste une chose, là, le débat, on est en train de revenir sur ce que Pétain a fait ou pas. Alors que le débat, c'est est-ce que Éric Zemmour mérite qu'on réclame 10 000 euros je pense que sur Pétain...
Accusé de révisionnisme, voilà, Éric Zemmour.
Voilà, accusé de révisionnisme. Déjà, des révisionnistes, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas tous condamnés. Donc moi, je suis absolument contre le fait qu'il soit condamné à ça. Parce qu'à partir du moment où on dit partout, et notamment en ce moment, qu'il y a une liberté d'expression, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. On fait des caricatures. Bon, il dit ça, il est polémiste, donc on sait que de toute façon, il y a de la provocation. Maintenant, quand vous parlez de Pétain, on n'est pas à juger s'il est très antisémite, très, très antisémite, très, très, très antisémite. Enfin, voilà, il y a quand même des faits. Donc, qu'il n'ait pas tué tous ceux qu'il aurait pu tuer, c'est super, quoi. Enfin,
ne fait pas de lui un sauveur, c'est
choquée.
Ça, hein, Laurent.
Ouais. Voilà, ça ne fait pas de lui un sauveur. Et je pense que ce n'est peut-être pas des propos qu'il faut tenir en ce moment. Je trouve ça assez déplacé. Et compte tenu du contexte, j'entends ce que dit Philippe Bilger. Peut-être qu'en France, il y a eu moins de juifs proportionnellement tués que dans d'autres pays, certainement. Maintenant, quand on entend les propos de Zemmour et surtout quand on les sort du contexte, on a presque l'impression que Pétain était philo-sémite. Donc, c'est assez gênant. Maintenant, à ce que la justice s'en mêle, sinon on passerait notre vie à juger ce genre de propos qui sont tenus régulièrement. On ne va pas reparler de Dieudonné et de tous ceux qui le soutiennent. Hein.
Philippe, quelques phrases avant d'accueillir Maria.
Très vite, Laura, je suis quasiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je continue à penser qu'Éric Zemmour a le droit de faire une analyse historique qui ne plaît pas à tout le monde, sans compter qu'elle s'appuie sur d'autres. Et surtout, je mets en cause ce recours permanent à la justice pour trancher des controverses historiques. Et je suis heureux de voir que... Et alors, l'indignation tout à fait légitime de Philippe n'a rigoureusement rien à voir avec notre
Maria
sujet.
Maria est avec nous, Maria de Bordeaux, 0826-300-300. Salut Maria.
Oui, bonjour à
tous. Bonsoir Maria.
Voilà, je vais être très brève. Hein.
Allez-y,
il faut quand même reconstituer le contexte. Déjà, on a pratiquement toute l'Europe qui est sous occupation nazie. Ouais. Le nord de la France est totalement occupé. Pétain, il signe un armistice. Il arrive à dégager une zone libre. Et dans cette zone libre, je suis désolée, monsieur, je ne sais plus, Philippe, je ne sais plus, l'étoile jaune n'est pas portée.
Philippe David, alors elle n'est pas portée, ma chère Maria, l'étoile jaune, mais elle est inscrite. Elle est inscrite autrement, le mot juif est inscrit quand même,
non,
hein, Maria.
Non, l'étoile jaune n'est portée qu'en territoire occupé.
Bon.
D'accord. Donc,
pas convaincue.
Voyez l'histoire. Donc, à partir de 40 en plus, Laval, dont on a dit des choses horribles, fait savoir qu'il est hors de question de rafler des juifs de souche française. Et encore moins de les déporter.
Ouais. Sauf que, ma chère Maria, à cette période-là, il y a beaucoup de juifs français qui ont été dénaturalisés, ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de juifs étrangers.
Et pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier qu'en 41, en plus, Justement, Pétain refuse de promulguer l'ordonnance qui est demandée par les Allemands, l'ordonnance allemande, c'est-à-dire du deuxième statut des Juifs, de la zone occupée à la zone libre.
Donc pour vous, c'est pas justifié, hein, pour revenir à notre débat. Pour revenir à notre débat, l'amende n'est pas justifiée, c'est ça, hein.
Mais bien sûr que non, là, c'est n'importe quoi. Et je suis désolée, il dit des choses vraies. Donc les Allemands, ils envahissent la zone libre en 1942, et à partir de là, effectivement, il y a des Juifs français qui vont être déportés.
Merci à vous.
Un tiers sur deux tiers.
Merci Maria de Bordeaux d'avoir débattu avec Les Vraies Voix. Bah tiens, restez là Maria, continuez à écouter Les Vraies Voix, on va poursuivre nos débats dans quelques instants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut casser les casseurs, entre guillemets, c'est ce qu'il a déclaré.
Charles Pasqua va lui demander des droits d'auteur.
Eh ben voilà, bon, on va en parler, justement. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré hier, le ministre de l'Intérieur, qui a demandé au préfet de police de Paris de plancher sur un travail de renseignement pour identifier ceux qui cassent chaque samedi. Darmanin, peut-il casser les casseurs? En est-il capable? Les réseaux sociaux pour voter, le 0826 300 300 pour débattre avec nous, comme vient de le faire Maria il y a quelques instants. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et oui, chaque samedi depuis trois semaines, des manifestations contre la loi sécurité globale et des black blocs qui viennent tout casser, qui viennent affronter les forces de l'ordre. Interrogé sur le sujet, eh bien, Gérald Darmanin a expliqué qu'il voulait casser les casseurs. Écoutez.
Les casseurs cassent parce que les black blocs, les émeutiers, c'est des voyous. Et du coup, c'est à cause de l'État et des policiers que ça se passe mal. Non, les casseurs cassent et il faut casser les casseurs. Donc ce qu'il faut qu'on accepte de faire, c'est que des policiers interviennent. En connaissant mieux les personnes, c'est toujours mieux. Parfois vivement pour intervenir. Voilà. Mais avouons qu'on demande à la police parfois tout et son contraire. On lui demande qu'il n'y ait évidemment jamais aucun blessé. Mais quand vous intervenez contre des gens qui sont extrêmement violents, ça ne se fait pas, encore une fois, avec des conjonctions de coordination et avec de la politesse. Bonjour monsieur, souhaitez-vous poser ce marteau s'il vous plaît et veuillez nous suivre.
Alors, Gérald Darmanin qui veut casser les casseurs, le ministre de l'Intérieur qui a demandé au préfet de police de Paris de plancher sur un travail de renseignement pour identifier justement ceux qui cassent chaque samedi. Gérald Darmanin, peut-il casser les casseurs? Vous votez sur les réseaux sociaux. La question que l'on vous pose, Darmanin qui veut casser les casseurs, est-ce que c'est choquant qu'un ministre de l'Intérieur tienne ses propos? La réponse est non à 71%. Le 0826 300 300 pour débattre avec nous, c'est le duel des vraies voix.
C'est l'heure du...
Et on accueille Frédéric de Blagnac pour ce duel. Salut Frédéric.
Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Frédéric. Ça vous choque tiens, que le ministre de l'Intérieur tienne ses propos? Il faut casser les casseurs?
Ah non, du tout, du tout. Alors que ce soit le ministre Darmanin ou tout autre ministre de l'Intérieur, au contraire, je dirais, mais il faudrait qu'il mette en place la règle des 4 P, c'est-à-dire plus de formation, plus d'effectifs, plus bien évidemment de moyens et surtout plus de soutien. Parce qu'il faut, dans ces conditions-là, soutenir aussi, en tant que représentant, je dirais, de ce corps de métier, de ce corps d'État, les soutenir également. Mmh. C'est une police aujourd'hui qui est sur tous les fronts, qui subit des attaques, mais alors incessantes depuis l'époque des Gilets jaunes. Et alors on parle très souvent, malheureusement, parfois de quelques débordements qui ne concerne que quelques rares personnes dans ce corps de métier. Et encore là, je m'insurge en faux, parce que même le président de la République a quelque part outrepassé ses fonctions en discréditant ses fonctionnaires sur le dernier épisode que nous avons vécu. Alors
le contrôle
qu'il y a
faciès,
une enquête,
c'est ça.
Voilà, ouais. Tout à fait. Ce producteur de rap dessus, bon, bien évidemment, les images sont choquantes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la présomption d'innocence et qu'il y a une enquête en cours. Donc, à partir de là, laissons faire la justice, si on a foi à la justice, avant de se prononcer. Et quand on est chef de l'État, on ne se prononce pas comme tel. Maintenant, effectivement, et la police aujourd'hui a absolument tous les moyens. La police n'est pas contre la société. Au contraire, elle est là pour nous protéger. Ce sont des gens qui subissent des attaques, mais incroyables, depuis un certain nombre de mois, qui sont épuisés. Il leur faut plus de moyens, plus de formation, plus d'effectifs, plus de soutien. Ouais. La population française les soutient. Il faut que leur corps d'État les soutienne également.
Et vous soutenez Gérald Darmanin. Laura Tenoudji, ça vous choque ces propos? Il faut casser les casseurs?
Non, absolument pas. Ouais. On parle juste d'un vocabulaire. Il y a eu, on a entendu au départ Sarkozy dire il faut passer les banlieues au Karcher. Ouais. On s'attelle sur les mots. On s'attarde, pardon, sur les mots. Je pense que effectivement, c'est ce que les Français veulent entendre, c'est-à-dire à un moment on va prendre les choses en main. Et voilà, après, est-ce que c'est le bon mot, pas le
voilà,
bon mot,
oui.
Ce qui compte là, c'est l'intention, et je pense qu'elle est bonne.
Et est-ce que, Philippe Bilger, la répression sera suffisante, hein, des policiers face à des casseurs qui vont du coup avoir encore plus de violence face à des forces de l'ordre qui vont les interpeller? Ça va être compliqué le samedi. Hein.
Alors Philippe, d'abord, je suis heureux d'avoir entendu notre auditeur qui a dit pratiquement ce que nous pensons
Frédéric.
Tous.
Deuxième, mais il est de la Haute-Garonne, du côté deuxième, de Toulouse, les gens sont très
sensibles. Deuxième voilà. élément, Laura le dit, il faut casser les casseurs, c'est une très bonne formule. Évidemment, elle n'est pas du tout choquante. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. Moi, ce qui me surprend un petit peu, pourquoi faire appel maintenant au renseignement alors qu'on pouvait le faire auparavant? Je veux dire, tout le monde ne cessait de dire que les casseurs, 400 ou 500, on les connaît.
Et depuis les Gilets jaunes, hein, depuis un an.
Donc, il n'est que temps de mettre en œuvre ce bris des casseurs en utilisant des moyens qui permettront de les identifier. Donc, casser les casseurs, très bonne politique, à condition de la mener à bien.
Il n'y a pas d'autre moyen de lutte que la violence, ça c'est ce que disent les casseurs.
Moi, je trouve ça très amusant, les propos de Gérald Darmanin. Je vais citer Linda Kebab.
Ouais.
Éminente syndicaliste policière d'unité SGPFO qui avait dit il y a quelque temps, on connaît tous les casseurs, tous les black blocs, faut qu'on nous donne la consigne de les mettre hors d'état de nuire et on le fera, mais on n'a pas les consignes.
Ouais.
Qui est ministre de l'Intérieur? Gérald Darmanin, pourquoi ne donne-t-il pas les consignes? Si vous avez la réponse, moi je l'ai pas.
Bah là, il a changé d'avis.
Alors plutôt que de dire on va casser les casseurs, qui passe à l'acte.
Je vais vous en donner une, mon cher Philippe. Linda Kebab est très bien, mais elle n'est pas non plus à sanctifier sur tous ses propos. Je constate que Gérald Darmanin a décidé de mettre en œuvre ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Voilà, donc...
Bah voilà. On va voir ça dans 3 jours. On est jeudi, dans 2 jours.
Casser les casseurs, est-ce que les propos de Gérald Darmanin vous choquent? La réponse est non sur le compte Twitter de Sud Radio. Non à plus de 80%. J'aimerais remercier Frédéric de Blagnac, voilà, qui a débattu avec nous au 0826-300-300. On va se détendre un petit peu. On va jouer tous ensemble. Voilà, le jeu que les Américains nous envient, vous le savez. King of News, les rois de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Voilà, il va faire ça en français, hein, Jean-Marie Bordet.
Je vais essayer, mais on va d'abord accueillir le peut-être prochain King qui s'appelle Aurélien et qui vient de The Havre. Bonjour à vous, Aurélien.
Non, The Havre.
Bienvenue sur Sud Radio, Aurélien, au 0826-300-300. Je vais vous proposer de choisir une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les 2 autres, Philippe Bilger, Philippe David, Laura Tenucci.
Philippe David.
Allez, on y va. On rappelle les règles. Je vous pose 3 questions, plus ou moins en lien selon mon humeur avec l'actualité. C'est d'abord Aurélien qui répond. Si jamais il se trompe, il a le droit. Eh bien, les vraies voix se battent pour répondre à sa place. Et si c'est Philippe David qui répond le premier, ben Aurélien a quand même le point. On est bon ?
On est bon.
Allez, on est parti, Aurélien. Première question. On regrette, on en a parlé, la disparition de la légende italienne Paolo Rossi, qui avait notamment crucifié le Brésil avec un triplé en 1982. Il faut savoir que des années après ça, il est retourné au Brésil, Paolo Rossi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Réponse numéro 1. La douane lui a refusé l'entrée. Réponse numéro 2, il s'est fait siffler et houspiller, un petit peu bousculé dans la rue par les Brésiliens qui l'ont reconnu. Réponse numéro 3, le chauffeur de taxi l'a reconnu et lui a ordonné de sortir, de descendre de sa voiture, d'après vous?
La réponse 2.
Eh bien, non.
La 3.
La 3.
Ouais, la 3, c'est Philippe David le plus rapide, effectivement. Oui, il a essayé de prendre un taxi.
Bon, c'était évident.
Ah non, la douane brésilienne aurait pu lui refuser l'entrée.
Non, elle est pour nous.
Le chauffeur de taxi regarde son rétroviseur. Mais attendez, vous n'êtes pas Paolo Rossi? Si, si, descendez de la voiture. Voilà, ça arrive. Si jamais vous êtes chauffeur de taxi, vous avez le droit de faire pareil avec Costa 19 ou alors Materazzi, hein, mon cher Aurélien. Je vous en voudrais pas, Sud Radio.
Ou Schumacher.
Schumacher, surtout. Et d'ailleurs, encore merci à Paolo Rossi de nous avoir évité cette infamie de voir Schumacher brandir la Coupe du Monde. C'était quand même le moment où il fallait le faire. Un point pour Aurélien, Philippe, David. Nous continuons. On est confinés depuis trop longtemps. Ça va peut-être être rallongé ce soir. On verra avec Jean Castex. À cause d'un virus, c'est facile. par quel animal est-on certain que cette saleté de virus n'est jamais passée avant l'homme? Réponse numéro 1, le pangolin. Réponse numéro 2, la chauve-souris. Réponse numéro 3, la girafe.
Le pangolin.
Non.
Non, la 3.
La girafe.
Oui, voilà, la girafe.
Ah, la girafe, ah oui.
Par quel animal? C'était déjà facile, donc j'ai dit, est-on certain que le virus n'est pas passé avant l'homme?
Vous avez bien choisi. Non, c'est moi qui ai été le plus rapide.
Vous avez d'ores et déjà gagné. On va continuer, chers amis, avec une question musicale. Philippe Bilger se trémousse, il l'adore, c'est sa star. Aya Nakamura, la chanteuse, est au cœur d'un bad buzz. Pourquoi? Parce qu'elle a dénigré un chanteur, à vous de deviner lequel. Réponse numéro 1, Aurélien, Matt Pokora. Réponse numéro 2, Matt Houston. Réponse numéro 3, Willy Denze.
Matt Pokora.
Bravo.
C'était le seul que je connaissais.
Et vous le connaissiez, vous reconnaissez la chanson, mon cher Philippe Bilger.
Ah non, voilà. Mon cher Jean-Marie.
La terre quand, vous dansez. Quand je danse, voilà.
Oui, quand je danse, on va rester sur le refrain.
Je trouve qu'avec Aurélien, on a fait une paire digne de Conti Rossi à la Coupe du Monde 82.
Exactement.
Parce que c'est eux qui faisaient très mal pour l'équipe d'Italie.
Il y a eu tout de même deux moments un peu disputés.
Oui, c'est pour ça qu'il y a la VAR.
C'est là où l'avant-centre gicle pour marquer.
Mon cher Aurélien, vous avez gagné 3-0 avec votre binôme Philippe David, votre cher pas votre porteur, votre fidèle escuyer. Restez en ligne, Aurélien. Vous allez nous donner votre adresse du côté du Havre. Aude qui vous attend au Standard de Sud Radio. On vous envoie un mug. Ça marche aussi avec le Calvin Normand, mais avec modération quand même.
Voilà. Je n'ai pas d'alcool, donc ça va aller.
Bah, très bien.
Ce que vous voulez, du jus de pomme, c'est très bien. On vous embrasse,
voilà,
Aurélien.
Merci. Merci, Aurélien. Bonne fête de Noël sur Sud Radio. Bonne fête de fin d'année. On va se retrouver dans quelques instants. La conférence de presse de Jean Castex à suivre en direct sur Sud Radio. Les annonces du Premier ministre, le débrief des vraies voix. On va être déconfiné mardi prochain ou pas? Est-ce qu'il y aura un couvre-feu? Est-ce qu'on pourra se déplacer partout en France? Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes avec les annonces du Premier ministre. À tout de suite.
Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio, bienvenue avec Laura Tenoudji qui est avec nous ce soir, c'est un plaisir, journaliste à France Télévisions, Philippe David également est là, Philippe Bilger, magistrat honoraire, voilà. Président de l'Institut de la Parole, Monsieur le Président, je vous donne la parole dans un instant, Jean Castex qui donne en ce moment une conférence de presse, et donc qui va détailler dans quelques instants ce qui va se passer à partir du 15 décembre. Va-t-on être déconfiné? Va-t-on pouvoir se déplacer partout en France? Est-ce qu'il va y avoir un couvre-feu? A priori, on se dirigerait vers un couvre-feu à 19h ou encore à 20h. On ne le sait pas. Bah, les annonces, hein, dès qu'elles arrivent, on vous les donne. Jean Castex, en ce moment, en conférence de presse. Et puis bien sûr, on va débriefer tous ensemble et avec vous aussi au 0826-300-300 à 20h. Notez bien, c'est exceptionnel. Dans le loft, Yvan Cujus recevra Francis Cabrel. Eh oui, Francis Cabrel, mon cher Philippe, fait son loft ce soir. Un extrait du dernier album de Francis Cabrel, Te ressembler.
J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir. C'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare. J'ai vécu comme on s'amuse.
Et voilà, c'est un monstre de la chanson française, hein, évidemment, Francis Cabrel. Dès que j'ai dit Francis Cabrel, vous avez vu les yeux de Philippe Bilger qui se sont illuminés. Hein.
Ouais.
Vous l'avez rencontré, Laura,
Cabrel? Il a envoyé un texto à Pascal, je t'aime à mourir d'ailleurs,
Vous l'avez rencontré, Laura, Francis Cabrel?
Je ne l'ai pas rencontré récemment, mais j'ai écouté tout son album, puisqu'on l'a reçu sur... on a traité son album sur TV5 Monde, et franchement, c'est un bonheur.
Ouais.
Moi, je suis fan de Francis Cabrel. J'ai été bercée depuis que je suis toute petite par ses mélodies, ce côté troubadour qui fait un bien fou en ce moment.
Vous l'avez
donc, je recommande
vous
à tout le monde.
Philippe, moi je l'ai vu une seule fois, mais pas du tout en train de chanter, en train de jouer un match de foot de bienfaisance. Il joue arrière-gauche.
D'accord. Et il joue bien.
Franchement, il est meilleur en chanson qu'en football. Je ne veux pas être négatif, mais...
Non, je ne l'ai pas rencontré, je l'aime beaucoup. Je suis souvent passé dans le village où il a sa demeure,
Stafford. Exactement. Ouais.
Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ses chansons, notamment, Philippe, un mot que vous aimez beaucoup, d'accord.
Ah oui. C'est que le début d'abord.
D'accord. Voilà. Francis Cabrel, Francis Cabrel, que vous retrouvez donc à partir de 20h dans le Loft Musique pour présenter son nouvel album qui s'appelle Te ressembler. Oui. Ah oui, bien sûr, on est en train de manger.
On remercie alors un pâtissier de la Creuse de Guéret, et c'est notre ami Jérôme Laverny qui nous a amené, alors je le montre, un gâteau qui s'appelle Le Creusois.
Le Creusois, puisqu'il est de la Creuse,
Philippe
Jérôme Laverny.
Philippe Liger, on est déjà. Laura le rate parce qu'elle est à distance, mais alors tout le monde.
Mais oui, il y a toujours, quand je suis pas là, il y a toujours des victuailles.
Mais oui, c'est vrai que c'est Laura, vous le savez.
Il y a du beurre, il y a ce qu'il faut, c'est vraiment très bon.
C'est bien, heureusement, je suis chez moi.
Bon, très bien.
Je vais garder la ligne pour les fêtes.
On remercie Jérôme Laverny pour son gâteau et on passe tout de suite au tour de table de l'actu.
Buenas tardes, amigos.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea?
Non, taisez-vous, parce que là, ça...
Le tour de table
de l'actualité.
En plein cœur de la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, qui va annoncer donc dans quelques minutes si on est déconfiné ou pas. La partie est loin d'être gagnée, c'est ce que vient d'annoncer Jean Castex, le Premier ministre, et les annonces dans quelques instants. Il y a un cliché, une photo qui fait polémique ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux. L'allée centrale de la galerie commerciale Auchan à Avignon dans le Vaucluse a été photographiée noire de monde. La distanciation sociale ne semble pas être respectée. Voilà, ça fait polémique. Beaucoup d'internautes se sont indignés. On va en savoir un peu plus et les coulisses de cette photographie. Patrice Mounier est avec nous. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Voilà, président de l'UMI, c'est dans le Vaucluse, 84, le département du Vaucluse. Alors vous en savez un petit peu plus, mon cher Patrice, sur cette photo. Je rappelle que vous représentez les restaurateurs, les restaurants qui sont fermés alors que les galeries commerciales et les boutiques sont ouverts, et donc cette galerie marchande qui a été noire de monde ce week-end. Est-ce qu'ils ont vraiment bien respecté la jauge, Patrice?
Alors c'est vrai que lorsqu'on voit cette photo, on est quand même très indigné, et tout le monde a été très indigné de voir ceci. Nous avons eu la chance d'avoir une visioconférence avec le préfet et le directeur d'Auchan, et qui nous a quand même confirmé que les jauges avaient été respectées, parce que ce monde dans la galerie n'est pas le nombre dans l'Auchan, dans le magasin Auchan par lui-même, et surtout que la différence... qui a été permise par le gouvernement de une personne pour 8 mètres carrés au lieu de une pour 4 mètres carrés a posé des problèmes que le gouvernement n'avait pas vu, parce que si vous voulez, là c'est 1 pour 8 mètres carrés pour la superficie totale du magasin.
Exactement.
Auchan.
Et c'est ce qui donne donc ce genre de scène.
C'est pas juste les allées, quoi.
Voilà, donc, ça donne ce genre de scène où on voit des gens bondés, des gens qui où il n'y a pas de la distanciation sociale n'est pas vraiment respectée. On le voit sur la photo.
Et oui, mais si vous voulez, c'est quand même dans la galerie. Les gens sont les uns sur les autres pour essayer de rentrer dans le magasin Auchan ou dans d'autres magasins de la galerie. Non, ce qui était dommage surtout, c'est que les pauvres restaurateurs qui sont fermés dans cette galerie, ben, ils voient passer du monde et ils se disent quand même, on n'est pas sur un pied d'égalité nulle part. Quoi, voilà.
Philippe David.
C'est totalement hallucinant. Il y a même un truc qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un quai de RER bondé où on marque ce n'est pas une remontée mécanique, ce n'est pas une station de ski. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le grand n'importe quoi.
Ouais.
Le grand n'importe quoi. On laisse 4 personnes au mètre carré sur les quais de RER et on vous interdit de skier sur un domaine skiable où vous n'êtes jamais à moins de 10 mètres de la personne la plus proche en général.
Ouais.
Surtout si vous skiez pas mal et que vous allez un peu vite. Donc c'est vraiment mais grotesque.
Alors j'ai appris quelque chose d'incroyable, Patrice Mounier. Il y a quelques minutes, président de l'UMI dans le Vaucluse, vous représentez les restaurateurs. Alors normalement, les restaurants doivent ouvrir à partir du 20 janvier si les chiffres le permettent. J'ai cru comprendre, mon cher Patrice Mounier, que les restaurateurs le savent et qu'ils ne pourraient rouvrir peut-être qu'à partir du mois de mars. Début mars. Est-ce que vous me le confirmez?
Oui, je vous le confirme, parce que sur deux choses. C'est-à-dire qu'on a peur, et on pense que le gouvernement va reculer une fois de plus l'ouverture des restaurants.
Ouais.
Mais surtout, c'est que on se pose la question pour les restaurateurs de la jauge qu'on va nous permettre. Parce que si on reste sur une jauge de 1 pour 8 mètres carrés, il y a des restaurants qui ne pourront pas ouvrir parce qu'ils ne feront même pas 10% de leurs recettes habituelles. Donc c'est vraiment très grave, parce qu'on risque de nous permettre d'ouvrir, mais avec une jauge tellement faible qu'on n'aura pas la recette voulue, mais par contre, on n'aura plus l'aide en cours
C'est la double peine, quoi. C'est la double peine. Terrible pour les restaurateurs.
Cher monsieur, j'ai bien compris. On ne vous permettrait de rouvrir qu'en mars ?
Oui.
Mais c'est de la folie.
Oui, parce que si vous voulez, on a perdu en Conseil
d'État. Ça va créer une révolte sociale.
Ah oui.
Quelque chose d'hallucinant.
Ouais. Laura Tenoudji.
Non, mais si c'est en mars, je pense que là, il va y avoir un nombre de dépressions qu'il va falloir soigner. Déjà, je trouve que vous entendez partout que tout le monde vit beaucoup moins bien ce deuxième confinement. Pour ceux qui l'auraient bien vécu la première fois, hein. Je ne parle pas de ceux qui ont vécu le premier confinement dans des studios, des deux pièces à cinq, mais on sent bien qu'il y a une énorme tension. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on n'a plus aucune soupape. Donc là, si jamais les chiffres ne sont pas bons, mais il n'y aura pas d'ouverture de théâtre, pas d'ouverture de cinéma, pas de restaurant. Effectivement, je crains le pire et j'aimerais savoir, puisque la Grande-Bretagne va commencer à vacciner, où on en est du vaccin. Parce que si on commence à vacciner, pourquoi on ne peut pas ouvrir les restaurants ?
Alors, ma chère Laura, je vous arrête, ma chère Laura, puisque Jean Castex est en train de s'exprimer. Une stratégie de déconfinement donc vient d'être annoncée. On écoute le Premier ministre.
Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter, car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année et que ces secteurs souhaitaient pouvoir retrouver leur public. Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public à un moment où nous devons continuer de les réduire autant que possible. Je sais à quel point le secteur culturel s'était préparé, que les artistes ont répété, que toutes les filières étaient mobilisées, que tout était prêt pour que les rideaux se lèvent et les écrans s'illuminent. Prendre cette décision avec le président de la République et la ministre de la Culture nous a été particulièrement douloureux, croyez-le bien. Malheureusement, si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles pour les fêtes de fin d'année, ce que nous avons tous espéré, la situation sanitaire pourrait être pire en janvier et nous décalerions d'autant les perspectives d'un retour à la normale. Voilà pourquoi nous avons décidé ce décalage de 3 semaines pour tout assouplissement. Je sais aussi que les supporters sportifs rêvaient de retourner au stade voir leurs équipes préférées. Nous réexaminerons donc la possibilité de les rouvrir à partir du 7 janvier en fonction de la situation sanitaire à cette échéance.
Et voilà, les annonces du Premier ministre Jean Castex, c'est un véritable coup dur pour la culture. Les cinémas et les théâtres resteront fermés à partir du 15 décembre pour 3 semaines, un décalage de 3 semaines évidemment, si les chiffres le permettent. Voilà pour ce déconfinement, en tout cas ce non-déconfinement pour le domaine de la culture. On va se retrouver dans quelques instants. On va savoir donc si on va pouvoir se déplacer en région, si on va pouvoir passer les fêtes de Noël en se déplaçant avec des attestations ou pas. Qu'en est-il du 24, du 31? Est-ce qu'il y aura un couvre-feu? La suite des annonces du Premier ministre dans quelques instants dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. À tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et Les Vraies Voix sont de retour sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Laura Tenoudji qui est avec nous. Je remercie Patrice Mounier, président de l'UMI dans le Vaucluse, voilà le département 84, qui nous en a dit un peu plus sur son secteur et les restaurants qui pourraient rouvrir seulement au mois de mars prochain. On va vous en reparler. En tout cas, c'est une info que les restaurateurs ont. Et la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, qui vient donc d'annoncer ce coup dur pour la culture, les musées, les musées, oui, oui, les cinémas et les théâtres resteront fermés à partir de mardi pendant encore 3 semaines. Et le Premier ministre vient de l'annoncer, donc un couvre-feu à partir de mardi 15 décembre, un couvre-feu de 20h à 6h du matin avec des attestations.
Voilà, donc pour ces fêtes. Alors, y compris a priori le 31 décembre.
Hein. Y compris a priori le 31 décembre. Qu'en est-il du 24 décembre? Le Premier ministre est en train, graphique à l'appui, de nous détailler tout ça. Philippe David, sur ce couvre-feu donc de 20h à 6h du matin.
Ce qui est terrible, chaque fois que j'écoute Jean Castex, j'ai envie d'acheter du Lexomil.
Ouais.
Parce que à chaque fois, c'est le père Fouettard, le père Tabdur, comme vous voulez, mais c'est n'importe quoi. Je vous dis un truc, ce matin, avec notre ami de l'UMIH qui était là, j'étais au téléphone avec l'Espagne, ouais. D'accord ? Ils me disent en Espagne, comme disait Françoise de Goyer pour l'Italie, tous les bars, tous les restaurants sont ouverts. Résultat des courses, les gens y vont décompresser un peu, en allant boire un coup, en allant se faire un resto, etc. En France, moi j'ai l'impression de vivre dans un pays mort. Vous n'avez plus un resto ouvert, plus un café ouvert, vous n'avez plus évidemment les pistes de ski, parce que c'est sur les pistes de ski qu'on se contamine, pas dans le RER, c'est de notoriété publique. Je tiens à dire une chose, vivre c'est pas être en vie. Mais vivre, c'est profiter de la vie. Et avec ce gouvernement qui a des mesures, vous passerez l'expression, mais vraiment à la con, on ne profite plus de la vie depuis bientôt un an. Alors, et c'est insupportable.
Mais est-ce qu'au moins, est-ce qu'on peut dire que ça a de l'efficacité sanitaire?
Ah bah, quand on voit en France le nombre de gens qui commencent à prendre du Lexomil, les suicides qui a priori augmentent, etc., ça a à mon avis une efficacité sanitaire. Et quand vous allez voir les restaurateurs qui ne peuvent plus payer les traites de leur resto, qu'on va saisir, leur femme va se barrer, etc., ils vont se suicider. Là, ça aura, on pourra constater l'efficacité sanitaire réelle, vous pouvez me croire.
Laura Tenoudji, donc sur ce couvre-feu à partir de 20h.
Je suis assez d'accord. Et ce qu'on vit est très anxiogène et très difficile. Maintenant, on n'est pas les seuls à vivre comme ça. Il suffit de regarder en Asie, il suffit de regarder Israël, où ils vont reconfiner encore plus durement. Il y a des pays où, dès que vous rentrez dans le pays, vous passez 15 jours dans un hôtel enfermé. Donc, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un gouvernement qui est exemplaire. Sinon, on le copierait. Donc, on a le moral dans les chaussettes. Mais d'accuser comme ça le gouvernement, c'est assez facile. Et je me dis, je regarde un peu d'autres pays, je me dis, il n'y a aucun pays qui a la recette miracle, sinon on la prendrait. Donc voilà, après, il y a beaucoup de principes de précaution qui sont pris en France. Et évidemment, on déplore la situation des restaurateurs et de la culture, évidemment.
Alors, je reprécise, hein, donc pour ce couvre-feu à partir de 20h, à partir du 15 décembre, couvre-feu de 20h à 6h du matin. Et alors, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui s'expriment en ce moment l'ont confirmé, il n'y aura pas d'interdiction de déplacement pour les fêtes de Noël et pour le 31 décembre, voilà.
Mais en revanche,
il y aura bien un couvre-feu qui sera maintenu de 20h à 6h du matin.
Donc, excusez-moi, je fais juste une remarque. Ouais. Si vous allez réveillonner chez quelqu'un, il faut déjà arriver avant 20h
voilà.
Et il faut dormir chez lui ou chez elle.
Voilà, ou alors vous faites la fête toute la nuit et vous repartez à 6h.
Bon, moi, le réveillon,
Philippe, vous allez faire la fête toute la nuit
Non, il n'y a pas de problème.
Philippe Bilger sur le Denfleur demande à voir.
Non, mais Philippe disait tout à l'heure à propos de l'Espagne, mais au fond... pourquoi n'est-on pas capable de dire les restaurants vont fonctionner et le citoyen y va de manière responsable ou pas, quoi. C'est vrai, ce que vous avez dit, Philippe, sur l'exemple espagnol m'apparaît pas absurde.
Ben non.
On pourrait compter sur l'exemplarité du citoyen qui est libre d'y aller, non, mais de maintenir ouvert ces choses fondamentales.
Sauf que la responsabilité du citoyen, on l'a vu quand on a déconfiné en mai, c'était pas trop ça. Ouais. Hein, Laura.
Après, chacun est responsable de ses actes.
Et puis quand on voit les photos là, dans le centre commercial,
Oui. Excusez-moi, ça m'amuse. On laisse les stades fermés depuis des mois. On ne peut pas aller se faire un petit peu de plaisir. Zut, l'équipe de France de rugby a joué au Stade de France plusieurs fois là, avec la Coupe d'automne. Vous avez 80 000 places. On ne pouvait pas mettre ne serait-ce que 20 000 personnes, un siège sur quatre pour mettre un peu d'ambiance. On ne pouvait pas mettre 15 000 personnes, 20 000 personnes. Non, mais de qui se moque-t-on?
Voilà, la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, le monde de la culture sous le choc, les cinémas, les théâtres qui vont continuer à rester fermés, décalage de 3 semaines, ils ne rouvriront pas avant le 7 janvier. Et puis donc ce couvre-feu instauré, y compris pendant les fêtes, le 31 décembre et le 24 décembre, les fêtes de Noël, couvre-feu de 20h à 6h du matin, d'autres annonces.
Une info vient de tomber, les stades à huis clos jusqu'au 7 janvier minimum.
Et voilà les fameux 3 semaines de décalage. D'autres annonces, le Premier ministre les fera dans quelques instants. Les déplacements, tiens, il en sera question. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer inter-région à partir du 15 décembre? On attend les annonces du Premier ministre Jean Castex à suivre sur Sud Radio. Je remercie Laura Tenoudji qui doit nous quitter, qu'on retrouvera la semaine prochaine.
Oh, merci beaucoup.
Et Philippe Bilger qui reste avec nous pour la suite des Vraies Voix. A tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec Philippe Bilger, Philippe David, la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, et de Gérald Darmanin d'ailleurs, ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé. Voici les annonces, donc coup dur pour la culture, puisque les musées, les théâtres, les cinémas resteront fermés jusqu'au 7 janvier. Ils ne rouvriront pas le 15 décembre, si les chiffres le permettent. Encore une fois, en ce qui concerne les fêtes de Noël, ce sera un couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Alors, précisons que le 24 décembre, hein, Philippe David, il n'y a pas de couvre-feu. Non. Donc on peut aller où on veut, entre guillemets. Le 31 décembre, en revanche, c'est le soir où souvent on fait la fête, il y aura un couvre-feu à partir de 20h. Et puis donc, déconfinement à partir du 15 décembre. Mais voilà, astreint un couvre-feu de 20h à 6h du matin à partir du 15 décembre. On se revoit le 7 janvier, c'est ce que j'ai cru comprendre, avec les chiffres liés à l'épidémie de Covid. Et donc le gouvernement décidera donc soit un déconfinement total, soit
si on a le droit de manger la galette des rois aussi ou pas.
Oui,
parce
le 6
que
janvier,
pourquoi pas.
Et on aurait eu les vaccins déjà ou par mois?
Non, la campagne va démarrer a priori dans quelques semaines, plutôt d'accord, mi-janvier. Et puis les vaccins, ça va se faire progressivement. Ça va être très très long, ça ne mettra pas fin à l'épidémie tout de suite, les vaccins. Surtout quand on sait que 6 Français sur 10 sont très sceptiques et ne veulent pas se faire vacciner. Maintenant, c'est la majorité.
Il ne faut pas dire qu'on a de la chance d'être vulnérable.
Exactement. Valérie est avec nous. Valérie de Toulouse au 0826-300-300. Bonsoir Valérie.
Bonsoir et bonsoir à toute l'équipe.
Mais bonsoir à vous, Valérie. Ma chère Valérie. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces de Jean Castex. Couvre-feu de 20h à 6h du matin, les cinémas, les théâtres qui restent fermés. Le 31, c'est le couvre-feu, pas le 24, heureusement. Une première réaction, Valérie.
Ils nous emmerdent. S'ils n'ont pas été calés au Kerguelen. Depuis trois semaines, le réseau Sentinelle annonce entre 11 et 16 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Mmh. On est 10 fois en dessous du seuil épidémique. Mmh. Depuis le début de la semaine, on est en dessous des chiffres demandés par le président de la République sur la réanimation. Mmh. Mais il ne faut pas que les Français se relâchent. Donc au lieu de nous dire combien de gens sortent de réanimation maintenant, on nous donne uniquement le chiffre de ceux qui rentrent. Ouais. Donc tout est fait pour nous manipuler. J'en ai ras la casquette. Il y a des fusils qui vont sortir. Ils ont intérêt à avoir des bons gardes du corps au gouvernement parce que vraiment, on en a ras la casquette.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour les fêtes de Noël le 31 décembre? Qu'est-ce que vous aviez prévu, Valérie?
Je vais vivre.
Oui,
voilà.
Donc, je vais avoir ma famille à la maison. Et désolé, on est une grande famille. J'ai 5 enfants, donc c'est sûr, on fera plus de 6 autour de la table. Mais rien à faire de leurs consignes. Ça fait maintenant... Moi, j'ai continué à travailler pendant le premier confinement et compagnie. Je suis partie en vacances cet été. Et voilà. Et ma fille qui a eu une mononucléose infectieuse, le médecin, son premier réflexe, ça a été de me dire « Test Covid ». Et je l'ai envoyé paître parce qu'elle n'avait aucun des symptômes. Même les médecins généralistes qui sont en première ligne, ils ont complètement le cerveau à l'envers. Ils ne pensent que néphro-Covid, rhino-Covid... Ça n'est que ça. Non, mais ça suffit, là. Ouais. Il faut vraiment qu'ils changent de logiciel. Hein.
Philippe Bilger.
C'est Valérie.
Valérie, ouais, c'est pas
Valérie. Valérie, vous avez beaucoup de fougue et de vigueur, mais est-ce que ça veut pas dire que vous négligez complètement le facteur sanitaire? Est-ce que vous croyez que le pouvoir aurait pu agir autrement, d'une manière moins offensante pour nos libertés? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, Philippe Bilger, moi, au niveau des gestes barrières, je pense que le plus important, c'est le lavage des mains. On n'a pas attendu qu'on nous dise de nous moucher ou de tousser dans notre coude pour mettre la main devant notre bouche depuis des années quand on était avec des amis autour d'une table. Excusez-moi, mais j'ai pas attendu Véran ou Buzyn ou Castex pour m'apprendre à me comporter en conscience. testé. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le lavage des mains, il était peut-être important de le remettre au goût du jour parce qu'on a quand, on sait quand même que ce virus est plutôt manuporté qu'aéroporté. Mmh. À partir de là, si vous voulez, de toute façon, on n'est plus en épidémie. On a une épidémie de tests positive. Si les gens veulent sortir du confinement, il faut qu'ils arrêtent de se faire tester quand, alors qu'ils n'ont rien.
Alors, ma chère Valérie, bon, je tiens quand même à vous rappeler, j'entends évidemment tout ce que vous dites, je tiens à vous rappeler, et Laura Tenoudji l'avait dit il y a quelques minutes, que c'est une épidémie mondiale, qu'en France, il y a plus de 55 000 décès, qu'il y a encore 3 000 à 3 500 cas de Covid en réanimation, que le gouvernement ne fait pas ça pour restreindre nos libertés juste pour s'amuser. Je pense que le gouvernement se serait bien passé du Covid-19 avec la crise économique qui nous attend. Attention Valérie, hein, aux petites menaces, j'ai entendu des petites menaces Valérie, je tenais à rectifier quand même, attention à ce genre de propos. Maintenant, mais je comprends Valérie, il y a eu beaucoup d'incohérences évidemment, et je comprends que les Français.
Il y a beaucoup de Français qui partent à ça.
Est-ce que vous me permettez de poser une question ? Imaginons, c'est un cas de figure, hein, qu'il y ait un virus de la grippe particulièrement virulent cette année et qu'on se prenne une épidémie de grippe, une grosse épidémie de grippe, en plus de celle de Covid. On fait quoi ? On cloître toute la population ? On refait un confinement version mars-avril, mais où les gens sont enfermés chez eux, on ferme les usines, etc. Mais on va où ? On va où ? Les restaurateurs, mars, vous vous rendez compte qu'entre mars 2020 et mars 2021, ils auront été fermés la moitié
Alors, les restaurateurs, c'est pas une info de Jean Castex, mais de Patrice Mounier de l'UMI, voilà, qui représente les restaurateurs et l'hôtellerie dans le Vaucluse, qui nous a expliqué qu'il avait reçu un papier officiel, un communiqué qui expliquait qu'il pourrait peut-être ne rouvrir qu'en mars.
Ils auront été fermés, donc à peu près 7 mois sur une année calendaire de mars à mars. Ouais. Mais vous connaissez beaucoup de boîtes, vous, qui peuvent survivre en étant fermés 7 mois.
Malheureusement, non.
Moi,
malheureusement,
j'en connais pas une.
Ouais. Sophie est avec nous au 0826-300-300. Sophie de Loire-Atlantique, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Sophie.
Moi je suis tout simplement en fait dans le même état d'âme que votre
que Valérie
précédente. Ouais. C'est-à-dire je suis outrée. Outrée parce qu'on nous prend toujours pour des enfants. On nous dit qu'il y a 1,5 million de personnes décédées au niveau mondial, hein, je parle. Hein. Et que nous sommes 8 milliards 5. Je sais pas là, j'ai dit peut-être une bêtise, c'est peut-être 7 milliards, mais je veux dire, au niveau de la comparaison mondiale, on est en train de faire des choses qui sont totalement aberrantes. On nous parle de symptomatologies qui sont très importantes, on nous parle de cas où il faut faire attention, les cas Covid. C'est les cas Covid qui font plus peur que la mortalité. On nous parle de nous supprimer nos fêtes de fin d'année sous prétexte que sur certaines religions, ben ce serait peut-être pas ça, ce serait peut-être le nouvel an chinois qui serait à une date différente ou autre, mais on nous parle de nous brimer de nos libertés, de nous brimer de nos joies, de nos sourires, de tout ce qu'on en est. Et là je suis totalement outrée parce que je me sens redevenir une enfant. Je suis désolée, j'ai 42 ans. J'ai de multiples formations professionnelles. Bon, bah, c'est tout, c'est pas forcément à mon avantage, hein, parce que j'ai pas su en jouir autant que je voulais peut-être. Mais je me dis qu'à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des enfants. J'ai vu avec bonheur mes parents cet après-midi, qui ont 80 et 73 ans. J'ai pu les serrer dans mes bras. Et putain, je vous dirais que là, de ce qu'on me dit, qu'il faut faire attention à des mesures barrières ou à certaines choses. Rien ne pourra ajouter à cette valeur morale vis-à-vis de mes enfants qui ont 18, 9 et 7 ans et demi, cette valeur famille, cette valeur sourire, et que cette peur qu'on nous met vis-à-vis du Covid-19 qui est totalement démesurée parce que dedans on met tout, hein, faut être réaliste, vis-à-vis des tests PCR qui ne sont pas fiables. Parce qu'on nous dit, ils sont au-dessus des 35,
il y a souvent 30% de faux négatifs, c'est vrai, c'est pour ça qu'on doit refaire un deuxième test en général.
Ouais, mais le deuxième test en général, voilà, c'est juste en général. Malgré tout, c'est ce qu'on nous dit. Je veux dire, je suis, j'ai l'application, la Covid-19.
Ouais,
je suis,
tous anti-Covid, ouais.
Avec l'application Facebook du gouvernement. Le gouvernement n'est là que pour nous faire peur. Et ben, je suis désolée. Mais le gouvernement, il n'a pas à nous faire peur. Il a à nous dire, c'est un symptôme grippal, mais mondial. Je suis entièrement d'accord. Mais où est la raison de sacrifier une génération d'enfants sur des vaccins où on ne sait rien au niveau de l'ARN, d'accord, tout le monde n'est pas vacciné. Mais où sont les mesures restrictives? De quel droit a-t-on le droit de justifier les mesures liberticides qui sont mises à l'heure actuelle? On atteint à mon droit privé, à mon droit d'humaine, à mon droit de maman. Et là, vous pourrez dire, je pense que là, tous les arguments du monde ne pourront pas aller à l'encontre de ça, parce que là, quand il dit qu'il y a des alternatives, qu'il faut, au niveau des mesures culturelles, qu'il fait le nécessaire, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Alors Sophie, peut-être...
Au vu de la population qu'on a dans les centres commerciaux, au vu de la population qui est générée à certains endroits, justement, parce qu'on en ferme d'autres, mais on détruit des vies, on détruit des gens, on détruit des commerces, on détruit l'économie, on détruit la vie de nos enfants à tout niveau. Et je pense qu'il y a un moment où il faut que l'économie, elle aille au-delà de l'humain.
Ma chère Sophie, peut-être la réponse à votre question, le direct Jean Castex, Premier ministre, qui explique en ce moment pourquoi eh bien, le gouvernement a décidé de prendre toutes ces mesures. Écoutez.
Plus confortable à court terme, car je sais la lassitude de beaucoup d'entre vous et l'impatience de nombreux secteurs économiques, mais ce serait une décision dont nous payerions le prix d'ici quelques semaines. Je me refuse à cette forme de facilité et l'irresponsabilité. Ma deuxième conviction, elle n'est pas nouvelle, et vous m'avez souvent entendu l'exprimer. Cette bataille contre le virus, nous ne la remporterons que par la mobilisation de tous. Bien sûr, il appartient à l'État de prendre les mesures nécessaires pour réduire les flux et les risques, mais à la fin des fins, c'est chacune et chacun de nous qui avons la clé de la solution. Par le respect des gestes barrières, par une vigilance absolue quand nous sommes en présence d'une personne fragile, par l'application des recommandations de prudence, et j'y insiste encore tout particulièrement s'agissant des fêtes de fin d'année. Ma troisième conviction est que les premiers mois de l'année prochaine doivent nous permettre de franchir un cap dans la lutte contre la Covid. L'expérience des mois passés nous enseigne qu'il n'y a pas dans la gestion de cette crise une seule solution. Nous devons agir en activant tous les leviers. Il y aura bien sûr la vaccination dont les premières phases nous permettront de protéger d'abord les plus fragiles au cours des prochains mois. Il y aura la multiplication des tests dont vient parler le ministre de la Santé, notamment des tests rapides, le renforcement de l'accompagnement des personnes atteintes par le virus, pour qu'elles puissent s'isoler rapidement en étant mieux suivies. Il y aura l'emploi des outils du numérique pour mieux identifier les cas contacts et remonter les chaînes de contamination. Il y aura enfin le recours à des mesures de freinage en cas d'accélération de l'épidémie que nous nous emploierons ensemble à éviter. Mes chers concitoyens, décidément, cette année 2020... aura été.
Et voilà les annonces du Premier ministre Jean Castex, la conférence de presse du Premier ministre que vous avez suivie en direct sur Sud Radio, les musées, les théâtres, les cinémas qui ne rouvriront pas le 15 décembre comme c'était prévu. Et puis, cette info donc, instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin dès mardi prochain le 15 décembre, y compris pendant les fêtes. Alors, pas le 24 décembre a priori, mais en tout cas le 31 décembre, il y aura bien un couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Voilà, 0826-300-300 pour réagir à toutes ces annonces. On va se retrouver dans quelques instants pour débriefer avec Philippe David, Philippe Bilger et nos invités dans quelques minutes. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h46 sur Sud Radio, bienvenue, c'est Les Vraies Voix, la conférence de presse de Jean Castex que vous avez suivi en direct sur Sud Radio, Philippe David, Philippe Bilger qui m'accompagne aux Vraies Voix ce soir. Et donc le Premier ministre qui a annoncé l'instauration d'un couvre-feu à partir du 15 décembre, écoutez.
Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h et non à 21h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre.
Voilà donc l'annonce de Jean Castex, instauration d'un couvre-feu, y compris pendant les fêtes, de 20h à 6h du matin avec des dérogations limitées, vous l'avez entendu. Et puis également le monde de la culture, hein, sous le choc, les théâtres, les cinémas qui ne rouvriront pas comme prévu le 15 décembre. Ils resteront fermés jusqu'au 7 janvier. Christian Estrosi est avec nous, le maire de Nice. Bonsoir monsieur Estrosi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous, monsieur le maire. Une première réaction donc à ces deux annonces et l'instauration de ce couvre-feu à partir de 20h, est-il justifié selon vous, Christian Estrosi ?
Oh, c'est toujours plus facile de commenter des décisions que de les prendre.
Oui.
Et vous savez que j'ai la même exigence depuis le début de la crise. Tout ce qui favorise la propagation du virus doit être limité. Et malheureusement, là où nous retrouvions une forme d'espoir avec une baisse de la circulation du virus il y a 3 semaines de cela qui avait amené le gouvernement à fixer un cap, un calendrier, et en nous donnant des rendez-vous de revoyure aujourd'hui, au 15 décembre et à début janvier, nous voyons que depuis quelques jours, la situation s'est dégradée. Donc, forcément, chacun peut, et moi-même, je pourrais avoir des divergences d'appréciation sur ce qu'il faut confiner, un peu plus, un peu moins. Je regarde les pays voisins. Tout peut être toujours discuté, mais personne n'a de solution concrète ni réelle. Nous voyons bien que tant qu'il n'y aura pas une immunité collective et durable, nous resterons dans une situation très fragile. Et donc, ça n'est pas le temps pour les responsables publics et politiques de polémiquer face à telle ou telle mesure. Moi, à la tête de ma collectivité, je dis que notre devoir est d'accompagner au mieux, même de renforcer certaines dispositions pour celles qui relèvent de l'autorité des maires, ce que je ne manquerai pas de faire dans certains domaines. Donc voilà, 11 000 malades par jour, c'est beaucoup trop. Il ne faut pas baisser la garde. Le gouvernement a fixé un cap et un cadre pour protéger notre santé collective pendant cette période de fête. C'est dur. C'est dur, mais nécessaire pour permettre un retour à la normale le plus vite possible.
Philippe Bilger.
Monsieur le maire, je crois savoir que votre belle ville a été louée dans un certain nombre de classements pour sa gestion. Puis j'ai également vous demander, c'est une angoisse que j'ai lorsque j'entends certaines décisions, notamment concernant le secteur culturel et surtout nos amis restaurateurs. Est-ce que vous ne craignez pas en 2021 une sorte de révolte sociale à cause de la détresse infinie de gens qui vont perdre beaucoup ?
Et bien sûr que je redoute cette révolte. C'est bien pour cela, et pour moi la vie culturelle est quelque chose d'essentiel, qu'il est un impératif de les soutenir quoi qu'il en coûte. C'est une impérieuse nécessité. Il faut que l'État aide le monde de la culture comme il le fait pour les salariés en chômage partiel dans les autres secteurs. Le soutien à la culture est un combat que je mène depuis des années. Aujourd'hui, aux côtés des mesures de l'État, je prends en charge les loyers de toutes les associations qui touchent à l'art vivant. J'achète des places par anticipation sur des productions qui sont en cours. Nous essayons pendant ces fêtes de Noël d'acheter des prestations qui seront diffusées sur le numérique, par le Théâtre National de Nice, par l'Opéra de Nice, par l'Orchestre Philharmonique et même par l'ensemble des petites troupes d'art vivant, de théâtre ou de défense d'art local. Voilà, la culture est quelque chose de majeur. Si nous avons la moindre disparition d'une troupe de théâtre, d'une association qui organise l'art lyrique, la danse, quelque part, eh bien, nous savons que nous ne retrouverons plus cette activité qui contribue aussi à la transmission de la connaissance, à l'éducation. Nous veillons à les faire intervenir dans les écoles, dans le cadre des rythmes extrascolaires pour pouvoir avoir la justification de pouvoir les accompagner financièrement. Donc nous faisons feu de tout bois au plan de la collectivité locale pour soutenir la culture pendant cette période difficile et qu'elle soit en mesure de mieux redémarrer dès que les conditions seront offertes.
Voilà, et ce décalage donc de 3 semaines, hein, les musées, les théâtres et les cinémas qui restent fermés jusqu'au 7 janvier pour le moment. Philippe David.
Monsieur le maire, je me pose quand même une question, vous parliez à juste titre de la culture, mais c'est pas un peu paradoxal de dire aux gens, on garde les théâtres fermés, vous n'avez pas le droit de réveillonner à plus de tant de personnes, et en même temps laisser une manifestation place de la Bastille avec 46 000 personnes sur une place qui n'est pas si gigantesque que ça, où il y en a aussi dans votre ville à Nice tous les samedi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur ce sujet, nous devons être intransigeants. Donc, voilà, rien ne peut justifier aujourd'hui que l'on dise, écoutez, se retrouver à 6, c'est dangereux, ouvrir un restaurant avec des règles sanitaires extrêmement strictes et un protocole qui soit respecté, on ne l'autorise pas, ce que j'admets, ce que je comprends, ce que j'aide à faire respecter, et que d'un autre côté, on permette sous n'importe quel prétexte, aussi noble soit-il, en cette période, de se retrouver dans une manifestation, quelle qu'elle soit, et a fortiori, lorsque l'on sait que derrière la manifestation, il y a l'intention de casser, et il y a l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de nos policiers. Aujourd'hui, il y a de bonnes raisons pour prendre des mesures d'exception pendant cette crise sanitaire et interdire des manifestations sous cette forme-là, en tout cas.
Et Christian Estrosi, Jérôme Salomon est au cœur d'une polémique ces dernières heures, accusé d'avoir fait pression pour modifier un rapport d'expert. Alors, selon des sénateurs qui ont eu accès aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, aurait cherché à intervenir sur un rapport établissant le nombre de masques nécessaires en cas de pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, le directeur général de la Santé, M. Estrosi, doit démissionner ?
Non. Non, non, je dis que ça n'est pas à partir de supposées informations. Nous savons très bien que dans le domaine sanitaire, nous avons connu au cours des décennies écoulées des choses qui ont eu un impact quelques années plus tard, puisque arrivera le moment où naturellement des comptes seront réclamés, des commissions d'enquête seront constituées, on regardera qui a fait quoi, et vous savez pertinemment que le gouvernement qui nous annonce aujourd'hui de bonnes choses sur enfin la possibilité pour chacun de se faire tester avec des réponses rapides, de disposer de tous les moyens de protection nécessaires, ce même gouvernement qui le 15 mars dernier disait au fond, non, les masques ne sont pas nécessaires, ce ne sont pas eux qui constitueront le principal geste barrière, qui nous traînaient, nous, les maires, devant les juridictions administratives ou le Conseil d'État, lorsque nous décidions de prendre des mesures de couvre-feu. Eh bien, ce même gouvernement, aujourd'hui, prend les mesures que les collectivités prenaient le 15 mars dernier, enfin, en tout cas, des collectivités comme la mienne, puisque j'étais le premier à prendre des arrêtés couvre-feu, à me procurer de partout, sur tous les continents, des moyens pour protéger même l'hôpital public, la médecine d'urgence, la médecine générale, les professions paramédicales, les cabinets dentaires. À une époque, on disait c'est pas une exigence et c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est formidable. Bon, mais tant mieux, tant mieux.
Christian Estrosi.
Et n'allons pas faire des procès de mauvaises intentions sur ce sujet. Et nous devons, dans ces moments-là, être unis. Nous devons gagner la bataille. Est-ce que c'est le temps de faire un procès ou d'intention ou un procès réel à l'égard de tel ou tel responsable d'État alors que la tâche est si difficile. Viendra le moment où nous serons sortis de cette crise sanitaire et les Français veulent surtout que nous soyons unis et coordonnés et mutualisés dans nos actions pour permettre à notre pays de s'en sortir le plus vite possible. Et puis, Naturellement, il y aura le temps où chacun devra rendre des comptes.
Christian Estrosi, j'aimerais terminer avec vous sur ce sondage IFOP pour la Tribune. Voilà, quelques heures du 5e anniversaire des accords de Paris. Eh bien, l'IFOP, que l'on connaît bien ici, a mesuré l'opinion des Français sur la notoriété et l'efficacité des décisions prises par les maires. Alors, il faut le souligner, vous arrivez en deuxième position, Christian Estrosi, le maire d'une grande ville ayant le mieux agi face au réchauffement climatique, voilà, en qui vous faites le plus confiance. Vous arrivez en deuxième position derrière Anne Hidalgo, et puis le maire d'une grande ville inspirant le plus confiance pour agir en matière de sécurité publique, pour relancer l'économie de sa métropole, ayant le mieux agi face à la crise sanitaire, eh bien Christian Estrosi, vous arrivez en première position. Est-ce que vous êtes satisfait de ce sondage? J'imagine que oui. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat, Christian Estrosi?
Bon, d'abord, bien sûr, c'est le regard des Français de manière instantanée, comme sur tous les sondages, donc je le prends avec modestie. Mais je vois que les mesures que j'ai prises et qui ont été quelquefois critiquées en matière de sécurité publique, où nous avons la première police municipale de France, qui est armée, qui a permis de neutraliser ce barbare qui a égorgé 3 personnes dans une basilique encore il y a quelques jours de cela, où nous avons mis des caméras de vidéosurveillance de partout, qui me bat pour la reconnaissance faciale, eh bien, les Français semblent reconnaître dans l'action des maires que c'est ces choix-là qui sont ceux qui, en matière de sécurité, sont ceux qu'ils attendent, qu'en matière de relance économique, où nous avons lancé un plan de 2,8 milliards d'euros pour saisir les opportunités du plan de 100 milliards d'euros présenté par le gouvernement pour pouvoir relancer à la fois de grands chantiers, accompagner la culture dans le volet cohésion sociale, prendre des mesures extrêmement fortes en matière de numérique, de ville intelligente, de développement de la 5G, de verdissement de nos espaces publics, d'isolation de nos logements, me place parmi les maires, ou en tout cas, en tant que maire aujourd'hui, qui prend le plus d'initiatives pour aller dans une direction qu'il souhaite et qu'il attendait bien.
Pour la Tribune. Merci, merci Christian Estrosi. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à vous, Christian Estrosi, maire de Nice, d'avoir donc réagi aux annonces du Premier ministre Jean Castex. Et ce couvre-feu, on va poursuivre dans les vraies voies avec Jean-Marie Bordry qui arrive dans quelques instants. Et on va débriefer sur les annonces du Premier ministre Jean Castex. À tout de suite.